Dictionnaire de la sagesse ancienne, avec David Goulois et Dominique Abdelnour. Cette émission présente les concepts fondamentaux de la sagesse ancienne, sagesse éternelle qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Pour aller plus loin ou pour réécouter des émissions, vous pouvez vous rendre sur le site de David Goulois, www.sagesseancienne.com. Bonjour à tous et à toutes. Au cours de cette émission, nous allons parler du déluge. Le déluge, selon la tradition universelle chez les peuples, les différents peuples, la symbolique des déluges, le déluge de la fin de l'Atlantide, et aussi la symbolique du déluge suivant la tradition hindoue. Bonjour David.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Est-ce que nous pouvons parler du déluge suivant qui est une notion qui existe dans énormément de peuples? Moi, j'ai noté chez les Aztèques, les Incas, pour les Juifs dans la Bible, les Chaldéens, les Égyptiens, les Slaves, les Grecs, les Indiens. Beaucoup de traditions de déluge.
Je pense que le déluge est un des éléments qui attestent de l'universalité d'une sagesse ancienne. C'est un élément qui est curieusement récurrent. Il y en a d'autres, il y a les géants par exemple, il y a d'autres thèmes comme ça qui reviennent et qui montrent que des peuples même très éloignés, quelque part, entretiennent les mêmes croyances, les mêmes doctrines sur l'origine du monde, sur l'histoire de l'humanité. Donc le déluge en fait partie. Alors on peut citer, vu qu'on est dans cette comparaison des différentes traditions, les différents hommes qui ont survécu au déluge, homme ou dieu ou sage ou prophète. En Inde, c'est le Manu Vaivasvata. On a Zyusudra chez les Mésopotamiens, on a bien sûr Noé chez les Hébreux, Deucalion chez les Grecs, Bergelmir chez les Scandinaves, Yima en Perse, Perun pour les Chinois, Coxcoxli chez les Aztèques et d'autres noms équivalents existent dans des traditions similaires.
Donc dans toutes ces traditions, il y a un déluge avec une sorte de fin des temps et un grand être qui vient sauver l'humanité et en préserver certains pour une suite de une survivance, quelque chose comme ça.
Une nouvelle humanité. En général, c'est quelqu'un qui est prévenu, hein, souvent les thèmes récurrents, c'est ça. C'est souvent même un couple, hein, j'ai cité que les hommes, mais Deucalion fonctionne aussi avec une femme, et puis souvent donc ils sont pérés, ils sont parce que ils symbolisent une sorte de nouveau père-mère pour une nouvelle humanité. Donc ils sont prévenus par Dieu, par un messager, un ange, peu importe, qu'un déluge va avoir lieu et qu'il faut qu'ils aillent se réfugier. Parfois ils représentent une communauté complète, mais l'idée c'est qu'un cycle se termine et quelque chose est sauvé, quelque chose est retiré comme une semence. D'ailleurs la notion d'arche ou de barque et autres, arche, il y a une notion archée d'ancien, quelque chose d'ancien, et archée c'est aussi la lune, c'est la semence, c'est quelque chose qui peut redonner vie, quelque chose est sauvé pour régénérer, redonner une nouvelle humanité, ou ça peut être, on verra tout à l'heure, une nouvelle terre. En fait, cette notion de déluge peut être interprétée de plein de façons différentes. C'est la fin d'un cycle en tout cas.
C'est la fin de quelque chose. Et alors, dans l'histoire de la Terre, est-ce qu'on a noté des déluges qui se sont passés, là, d'un point de vue scientifique?
Alors, d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup de théories différentes. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. On va par exemple essayer de dater la création de la Méditerranée, mais on pense qu'il y a eu des petits déluges à d'autres moments qui ont pu toucher certaines îles, certaines côtes. Moi, je peux plus parler au niveau de la doctrine secrète, par exemple, de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, une grande ésotériste du 19e siècle. Et selon la doctrine secrète, il y a eu plusieurs déluges à l'intérieur d'une même race humaine, qui était la race Atlante. Et il y a eu donc un grand continent qui était jadis donc l'Atlantide, qui était jumelé avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et qui a au fur et à mesure été recouvert par l'océan Atlantique.
Alors, parlons
cycliquement.
Parlons de cette fin de l'Atlantide, de ce grand continent. C'était il y a combien d'années? Moi, j'ai entendu dire que ça a commencé il y a quelques millions d'années, tout de même si ça s'est terminé assez récemment.
Tout à fait. Il y a eu plusieurs déluges. Donc, ce grand continent maintenant sous l'Atlantique a au fur et à mesure été recouvert et ce continent s'est donc séparé en plusieurs îles. C'est-à-dire que les éléments du continent qui étaient les terres qui étaient les plus hautes ont continué d'émerger, les autres ont été ensevelies, on a commencé à avoir sept îles. On en parle par exemple dans les Puranas, dans les textes hindous. Il y a sept îles et au fur et à mesure, des millions d'années se sont écoulées et il n'est resté plus que deux grandes îles, plus qu'une seule île. Et après, cette unique île a été recouverte et le dernier petit îlot quelque part, c'est celui dont parle Platon. C'est Poséidonis.
Donc c'est là qu'on rentre dans l'histoire. On n'a pas forcément de données scientifiques, mais on a Platon qui nous a légué des écrits où il nous donnait des informations.
Alors Platon, lui, évoque ça dans Critias et le Timée. Le Timée est après suivi souvent de Critias. Et il décrit ce mythe. Et l'art de Platon, c'est de transmettre une sagesse universelle à travers des mythes, des paraboles, des allégories. Et en fait, quand Platon parle, on peut comprendre cette Atlantide comme le continent complet qui a été enseveli, ou alors la dernière histoire de l'île elle-même. Alors, d'un point de vue historique, Platon révèle que c'est Solon qui l'a appris auprès des Égyptiens. À son époque, les Égyptiens connaissaient cette information depuis au moins 9000 ans, mais on ne sait pas à partir de quand ils ont eu réellement cette information. Mais elle existait déjà avant eux. Depuis 9000 ans, et selon eux, il y a eu, même les Égyptiens ont dit à Solon qu'il y avait eu plusieurs déluges, et c'est aussi quelque chose de connu dans la mythologie grecque, qu'il y a eu plusieurs déluges. Et alors c'est intéressant la filiation, parce que Platon donc a une mère, cette mère a un frère, donc c'est l'oncle de Platon, ou un cousin, on ne sait pas trop, Critias l'ancien, donc Critias le jeune, a pris cette information de son grand-père, Critias l'Ancien. Et Critias l'Ancien avait un père qui était soit le frère de Solon, soit un ami. Donc on voit qu'il y a une filiation au niveau même de la généalogie de Platon. Solon, il faut savoir que c'est un des sept grands sages de la Grèce. Donc ça a été transmis jusqu'à Platon. Donc ça donne quand même du crédit à Platon, du crédit à Solon. Et Solon a voyagé en Égypte comme d'autres Grecs et a appris cette tradition des déluges.
Mais ce dernier, comment dire, cette île, cette dernière île qui s'est abîmée, c'est Poséidonis, c'était il y a 15500 ans, c'est ça?
Alors selon l'ésotériste Benjamin Creme, c'était en effet il y a 15500 ans, donc moins 13005 avant Jésus-Christ. Alors on dit 9000 à partir des Égyptiens, mais on ne sait pas... Enfin, avant les Égyptiens, plutôt, on ne sait pas vraiment quand les Égyptiens ont eu dans leurs annales ces fameuses dates. Si on prend juste à l'époque de Solon, alors ça fait, on dit, 9600 ans et quelques. Mais à mon avis, les Égyptiens l'ont appris depuis au moins avant Ménès. Donc ils avaient ça dans leurs archives, parce que ce n'est pas les Égyptiens qui ont vécu ce déluge, c'est des peuples avant. Donc on ne sait pas vraiment. Mais si on rajoute déjà Ménès, c'est moins 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est le premier roi, premier pharaon. Il il a très bien pu recevoir cette information. Et ça fait déjà 12 000 ans et on s'approche des 13 500 ans donnés par le maître de Benjamin Crème.
D'accord. Et ça se passait où alors? Cette dernière île, elle était où? C'était autour des Açores, c'est ça?
Ça correspond à toutes ces petites îles qui formaient la dernière portion de la dernière grande île, si on veut, du grand continent Atlante.
Donc ce grand continent, ce serait petit à petit, aurait été submergé par les flots en quelques millions d'années. Et c'est ainsi qu'il aurait disparu et il ne subsiste plus rien aujourd'hui.
Voilà, il subsiste quand même tout le continent américain qui faisait partie, qui était une portion, la portion est, si l'on veut, du grand continent Atlante. Et il y a une partie, quelque part aussi, des côtes ouest de l'Europe, qui était aussi jumelée, qui était collée quelque part à ce grand continent. Donc en fait, la Méditerranée, par exemple, c'est le résultat de ce dernier petit déluge, il y a environ 15 000 ans, qui a recouvert toute cette portion et qui a séparé l'Espagne de l'Afrique.
Oui, donc c'est pas le continent qui s'affaisse, c'est vraiment de l'eau qui tombe du ciel.
Il semblerait qu'il y ait des mouvements dans les plaques, on les connaît, mais il y a aussi des mouvements pas seulement... on peut dire latéral, mais qu'il y a des parties qui s'effondrent, donc l'eau forcément recouvre. La Terre est un organisme vivant. D'un point de vue ésotérique, et je ne sais pas si c'est le cas au niveau scientifique, on met ça aussi en lien avec l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui est elle-même reliée à des grands astres, des grands centres cosmiques qui l'attirent, qui exercent des impacts sur sa croûte terrestre, et tout cela a une action sur les mouvements des plaques, sur l'élévation, l'abaissement des continents. Et dans la doctrine secrète, on apprend que cycliquement, il y a pour une grande race mère soit un ensevissement du fait des volcans, c'est le cas pour l'ère précédente, l'ère qui a précédé l'Atlantide, c'était la Lémurie, tout ce continent correspondait à l'océan Pacifique, il reste un bout de l'Australie, le Sri Lanka, toute cette région-là, s'est affaissé dans des volcans. Le Japon est une trace aussi de ce grand continent-là. Et cycliquement, c'est soit sous les volcans, donc soit par le feu, soit par l'eau directement.
J'ai une première question. Là, tu as parlé d'une race mère. Il faudrait peut-être expliciter aux auditeurs, parce que nous, on connaît nos races suivant les pays, alors qu'une race... Une race mère, suivant la tradition ésotérique, c'est bien plus, c'est pas une question de couleur de peau ou de couleur d'yeux, ou etc. C'est bien autre chose.
C'est plus large que ça. Il y a eu trois grandes époques qui ont donné trois grandes races mères. La race lémurienne, c'était la première, c'est là que l'humanité est née, s'est développée.
C'était il y a 18 millions d'années, ça.
18,5 millions d'années, voilà. Et puis de moins 12 millions d'années jusqu'à environ 100 000 ans. Il y a cette fameuse époque Atlante, et il en est resté des dernières colonies sur ces fameuses îles, et jusqu'à la dernière colonie qui se trouvait sur l'île de Platon, de Poséidon. Mais c'était à l'intérieur déjà de la race dite arienne ou caucasienne, qui a commencé il y a environ moins 100 000 ans. Donc on voit qu'elle se chevauche et qu'il y a des peuples qui demeurent, et puis tous les peuples évoluent aussi au fur et à mesure. Il n'y a plus d'Atlante sur Terre, il n'y a plus de Lémuriens, mais ils ont évolué au sein de l'époque d'Italie.
Voilà, la race arienne n'a rien à voir avec les blonds aux yeux bleus. Hein.
Ça vient d'un mot d'ailleurs, Arya, un mot indien, sanskrit, qui veut dire les nobles. C'est en fait les peuples d'Asie centrale qui sont originaires, qui sont les peuples qui sont descendus après en Inde, en Iran et dans toute l'Europe.
Et ça recouvre quasiment toute l'humanité aujourd'hui.
Alors toute l'humanité vit dans l'époque arienne, mais il y a les peuples dits asiatiques et les peuples amérindiens, eux sont d'origine atlante, mais ils évoluent dans l'époque dite arienne.
Est-ce qu'on peut faire une petite pause musicale ? Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer la symbolique des déluges, parce que si on parle des déluges dans toutes les traditions, c'est que derrière, il ne s'agit pas simplement d'eau qui tombe du ciel et qui submerge un continent, il s'agit aussi il y a forcément une symbolique, c'est-à-dire que le déluge a un sens. Alors, tout à l'heure, tu as commencé à parler de cycle, de création. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là, David?
Alors déjà, on peut en parler d'un point de vue historique, au niveau de l'histoire de l'humanité. On a vu qu'il y avait des sortes de déluges, enfin de grands bouleversements à la fin, entre le passage d'une race mère à une autre, et en fait, il y en a même à l'intérieur des subdivisions d'une même race mère, donc par le feu, les volcans souterrains, ou alors par l'eau, par des grandes inondations, des tsunamis, on dirait même maintenant en termes modernes aussi, hein. Donc il y a des évolutions. Des transformations de la croûte terrestre et des continents qui se créent et d'autres qui disparaissent. Il y en a plusieurs et ça s'est fait plusieurs fois et ça se refait dans des petits cycles. On a vu jusqu'à Platon, la dernière petite île. Et ça symbolise d'un point de vue psychologique aussi, donc c'est la disparition d'un ancien monde. Et au sujet de l'Atlantide, le déluge a correspondu quelque part à une forme, je vais pas dire de punition parce que c'est pas le mot, mais une sorte de rétribution karmique. C'est-à-dire que l'humanité, une partie de l'humanité, s'était enfoncée dans une forme de dégénérescence. On parle de magie
Alors,
noire,
ce
on
que tu veux
parle
dire,
de.
c'est une forme de punition?
Je veux pas dire ça parce que Dieu ne punit pas, c'est une vision de l'Ancien Testament, mais une forme de rétribution karmique. La loi de cause à effet a fait justement que il y a eu une guerre, un conflit dont on parle dans les différentes mythologies, et ça s'est soldé par ce déluge, et une partie de l'humanité corrompue quelque part a été noyée, et cette noyade représente ce qu'on appelle la noyade occulte, c'est-à-dire que l'eau correspond à notre corps émotionnel, et quand on fait un mauvais usage des émotions, de nos désirs, de nos passions, on se noie occultement dans notre corps émotionnel et physiquement. L'eau, l'envahissement par l'eau a représenté cette noyade. Elle l'a symbolisée, elle l'a incarnée. Donc une partie de l'humanité a été ensevelie, emportée sous les eaux, et une autre partie, destinée à créer la race mère future, a été sauvée. C'est ça l'idée d'un couple, c'est symbolique bien sûr, tous ces couples, ou même de certains animaux qui sont sauvés, c'est tout simplement l'idée qu'une partie de l'humanité meilleur va être utilisé pour régénérer, pour recréer une nouvelle forme d'humanité, c'est-à-dire des nouvelles colonies, des nouvelles villes, des nouvelles cultures, des nouvelles civilisations.
C'est toute cette loi des cycles de la vie où il y a quelque chose qui naît, qui croît, qui décroît et qui meurt. Donc c'est vrai de tout, des humains, des animaux, des organisations, des civilisations. Voilà, donc c'est aussi vrai sur des grands cycles de centaines de milliers d'années ou de millions d'années.
Oui. Ça va plus loin dans la doctrine secrète de Madame Blavatsky. Il est question de, et même en Inde, il est question des pralayas. Les pralayas, ce sont quelque part ces déluges. Alors c'est pas toujours de l'eau, c'est de l'eau physiquement. On a vu des volcans, mais à un point de vue cosmique, c'est une réabsorption. Cette idée qu'à la fin d'un cycle, la matière est réabsorbée dans une substance invisible qu'on appelle l'akasha. L'espace quelque part. Et la Terre vit des cycles. Des rondes, on appelle ça des rondes, des grands cycles, où il y a une planète qui apparaît, qui se crée, et elle vit la fin d'un cycle, elle disparaît, puis elle réapparaît de nouveau. Et voilà, il y a plusieurs grands cycles comme cela. Et dans la mythologie hindoue, il y a 14 cycles comme cela, mais en fait, on appelle ça des jours et des nuits de Brahma. C'est-à-dire qu'il y a, quand c'est le jour, Brahma qui symbolise le dieu créateur, Brahma crée, produit. Ça peut être un système solaire, une planète. Dans le jour de Brahma, la planète apparaît. Puis après, Brahma s'endort. Ça devient la nuit de Brahma. Donc c'est une forme de déluge quelque part, mais abstrait. C'est un pralaya. Donc toute la matière est réabsorbée. Ça fait deux manous. Et vu que ça se fait 7 fois, il y a 14 manous comme ça, pour ces grands, grands cycles planétaires.
Qui dure quelques milliards d'années.
Un kalpa, un jour de Brahma, c'est 4 320 millions d'années, selon les cycles
Alors,
des
de
Indes.
façon
Donc c'est
assez
énorme.
curieuse, ces 4 milliards d'années, ça correspond à peu près à la datation qu'on a donnée de la Terre.
Tout à fait, et ça va même plus loin, c'est que si on prend l'histoire de l'univers, ça correspondrait dans la doctrine hindoue aux 3 premières rondes. Si on est à 4 milliards, 4 fois 3, 12, on est à maintenant, on dit 3, 13 milliards 5, si je me souviens bien, Il est possible, à mon avis, moi c'est ma théorie, que l'on regarde l'univers à travers la substance de la planète, qu'on lit, qu'on enregistre à travers un niveau de conscience, à travers un plan particulier, et que ça nous conditionne énormément. Si on suit la doctrine hindoue, l'univers est bien plus vieux, plus ancien que les dates qu'on lui assigne. Si on suit la doctrine des maîtres et qui ont inspiré les sages hindous.
Nous, en fait, on connaît, on date l'univers avec la taille qu'on arrive à mesurer. Hein. C'est comme ça, parce qu'on arrive à voir la lumière qui
Bien
vient
sûr, c'est
et
par les photons.
on voit la vitesse de la lumière et on dit, pouf, voilà, on a la taille, donc on en déduit l'âge. Hein.
Mais rien ne nous dit si on n'est pas conditionné du point de vue de notre observation. D'ailleurs, si on suit la théorie d'Einstein, on mesure l'espace et le temps en fonction toujours d'un référentiel. Ce
Oui,
ne
tout
sont
à
pas des
fait.
valeurs absolues. Donc, peut-être sommes-nous dans une forme d'illusion ou de conditionnement au niveau de la planète en mesurant toutes ces choses. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objet de cette radio. C'est plutôt l'idée de comprendre que dans les doctrines ésotériques, on peut comprendre ces cycles de plein de manières différentes. Ça peut être aussi des cycles, on a vu que ça existe pour les étoiles. Les étoiles naissent, croissent, meurent, ça crée des poussières d'étoiles, elles sont réutilisées de nouveau. Et on a ça donc pour des galaxies complètes qui naissent, croissent et meurent, pour un soleil, pourquoi pas une planète, et pourquoi pas cette idée de renaissance, c'est-à-dire qu'une divinité, comme le dieu de notre planète, reviendrait cycliquement. Si on l'accepte pour l'homme, il n'y a pas de raison de l'accepter, de ne pas l'accepter pour un logos planétaire, pour un logos solaire, stellaire, galactique, etc. Et même pour l'univers complet, on se pose la question. Des astrophysiciens pensent, d'autres non, que l'univers a été créé, qu'il y a eu plusieurs Big Bang cycliquement. Ça correspond à ce qui est dit dans les enseignements ésotériques. Donc le déluge se situe au moment où il y a réabsorption. C'est où il y a pralaya, où il y a obscuration, occultation, on pourrait dire.
Donc c'est la fin d'un temps.
C'est la fin. Alors c'est pour ça qu'on a 14 Manous. Pour les 7 grandes rondes, donc un jour et une nuit. Je tire juste, d'ailleurs, j'attire l'attention de l'auditeur là-dessus, c'est que les 7 jours de la semaine, les 7 jours de Yahvé, en fait, sont une copie des 7 jours de Brahma. Il y a énormément de choses dans la Bible que l'on retrouve et qui sont bien plus vieilles dans la tradition indienne. Donc voilà, on a les 7 jours avec 7 manous de jour, 7 manous de nuit, donc ça en fait 14, c'est pour ça qu'on a ces 14 manous. Et quelque part, ça se rejoue à l'intérieur des races mères. Elles ont 7 suras, 7 subdivisions. Et il y a parfois 2 manous qui s'occupent du début de cette race mère et la fin, la transition. C'est le cas du manou Vaivasvata, qui est le manou qui est à l'origine de notre race dite aryenne, caucasienne. Si on veut transcrire le système dans l'histoire de la planète. Donc c'est un système occulte assez complexe, on peut le lire à plusieurs niveaux. Ce sont des symboles, des mythes, des allégories, qui
Oui,
cachent des...
qui cachent de vraies réalités, qui sont une façon d'exprimer des lois de façon simple, compréhensible, par
Oui.
une sorte de loi de correspondance ou.
C'était des savoirs qui étaient réservés aux initiés, mais pour quelque part les faire survivre. Pour en maintenir la mémoire, ils ont été codifiés, présentés à travers des mythes, des allégories. Et c'est pas pour rien qu'on a donc des allégories communes dans des peuples qui ne se connaissent pas. Ça veut bien dire qu'il y a derrière des lois, des principes qui étaient inspirés,
Qui sont communs.
qui sont communs.
Est-ce que nous pouvons revenir aux Égyptiens? Comment ils ont eu l'information? Quelle est la liaison? Comment s'est passée la liaison entre les derniers Atlantes et les Égyptiens? Comment est-ce que s'est passé tout ça? Quelle a été l'influence des Atlantes sur l'Égypte?
Alors, ce que dit Benjamin Creme à ce sujet, cet ésotériste anglais dont on a déjà parlé, selon lui, cette dernière colonie atlante, certes, s'est réfugiée au niveau des Açores, sur les montagnes qui correspondaient aux crêtes aux monts donc les plus élevés au niveau de ce qui restait de l'île de Poséidonis. Et ensuite, ils sont allés en Afrique du Nord et ils se sont installés en Égypte et on leur doit la construction des grandes pyramides, le Sphinx et cette culture qui venait de l'Atlantide, qui est une culture très spiritualiste, très axée sur le culte de l'au-delà. Les momifications, toutes ces choses-là, c'est une vieille culture qui venait déjà de l'Atlantide. Donc elle est très très ancienne, avec beaucoup de magie aussi. On a dit que l'Atlantide s'est enfoncée aussi dans une forme de magie noire et que l'inondation était un peu le résultat karmique de ce mauvais emploi d'énergie. Parce que le corps émotionnel, on l'a dit, est lié au corps, à l'eau, à l'élément liquide. Il y a un lien occulte entre les deux. Donc voilà, ces Atlantes ils ont colonisé donc l'Afrique du Nord, mais c'est aussi pour la raison pour laquelle on a aussi chez tous les peuples atlantes l'usage des pyramides. On a ça en Mésoamérique, en Amérique du
Sud. C'est vrai que les pyramides, on les a
en Chine aussi, chez tous les peuples atlantes.
On les a dans beaucoup d'endroits. Oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'époque, 13005 avant Jésus-Christ, ça correspond grosso modo au passage du signe de la Vierge à celui du lion. Et le lion a probablement dû jouer un rôle, parce que le lion c'est le feu, c'est la chaleur. Peut-être dans la fin de la dernière glaciation, il est possible que qu'il y ait eu pour conséquence une montée des eaux, une fonte de certains grands glaciers qui restaient. Je parle pas des glaciers du nord, du pôle nord, hein, mais il y avait des glaciers aussi dans les continents qui sont maintenant sans glace. Donc il est possible qu'il y ait une élévation des eaux, c'est tout à fait envisageable autour de cette période-là. Et ce qui est important, c'est qu'on passe de la Vierge au Lion, et quelque part on passe d'un signe féminin à un signe masculin, la Vierge est plus reliée à l'aspect de la Lune, le Lion au Soleil, les sociétés atlantes, elles étaient matriarcales, très lunaires, donc les sociétés dites ariennes, beaucoup plus solaire et patriarcal. Il y a quelque part dans ce passage une sorte de symbolisation d'un passage plus grand qui avait eu lieu avant entre la race mère atlante et la race mère arienne. Donc les cycles sont reproduits dans des cycles plus petits, mais l'histoire se répète. Donc il y a vraiment un changement de culture. Et si on regarde le sphinx, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps de lion avec une tête de femme. Une tête humaine, quelque part.
Donc il fait la liaison entre les
deux. Quelque part, il représente et il symbolise cette liaison. Parce que les Atlantes vont venir et ils vont se mêler après aux Ariens, colonies ariennes, qui ont essaimé un petit peu partout, en Afrique du Nord, dans l'Europe centrale, dans le nord de l'Europe, dans l'Asie centrale, etc. Enfin, à partir de l'Asie centrale. Donc il y a une forme de métissage, on peut dire, culturel et aussi racial, qui s'est opéré en Égypte.
Est-ce qu'il y a un lien, parce qu'on parle de l'Atlantide, est-ce que c'est lié au fameux Atlas de la mythologie grecque qui porte le monde sur son épaule ?
Voilà, tout à fait. Le mot, Platon le dit, Atlas vient, l'Atlantide vient du premier roi de l'Atlantide qui était Atlas. Il a donné son nom au continent Atlante, donc à l'Atlantide. Il a donné son nom après à l'océan Atlantique qui a recouvert le continent Atlante. Et c'est intéressant de voir que les Pléiades sont les filles d'Atlas, il y en a sept, et on les appelait les Atlantides aussi. Et elles symbolisent les sept sous-races, les sept subdivisions qu'a une grande race mère. On a vu que tout fonctionne sur le sept, en fait. Les races aussi, comme les cycles planétaires.
Comme les plans aussi.
Comme les plans, comme les chakras, les couleurs. On a souvent parlé des rayons, c'est en fait l'effet des rayons. Les sept filles d'Atlas symbolisent une sous-race, une période de la grande race mère Atlante.
Et quelle est la liaison avec les Pléiades ? Les Pléiades nous envoient leur énergie ?
Les Pléiades ont un rôle très important en lien avec la constellation de la Vierge, donc on retrouve aussi le rôle important de la Vierge, élément féminin. L'ère Atlante a été une ère très féminine, et il semblerait que ces constellations ont joué un rôle, donc c'est pourquoi on relie ces constellations, certaines constellations à certains peuples, à certaines ethnies, certaines époques. Mais en tout cas, la notion d'Atlas, l'idée d'Atlas et de cette fille, est intéressant parce qu'Atlas est un titan et il a un frère qui est Prométhée. Et lui, Prométhée est enchaîné sur le Caucase, et lui, Prométhée, il représente la race caucasienne, ceux qui vont naître. Alors au début, il a donné le feu à l'humanité, mais après, son fils, c'est justement Deucalion, et avec Pyrrha, ils vont être sauvés du déluge. Donc il représente bien la production de Prométhée, qui représente bien donc cette race caucasienne, cette nouvelle émergence, cette nouvelle humanité. Donc les titans, quelque part, représentent des principes qu'on peut associer à des races mères. C'est un système assez complexe, en fait, hein. Mais on voit que la mythologie grecque peut s'expliquer aussi. Il y a une lecture historique, comme on a vu qu'il y avait une lecture astronomique, géologique, morale, quelque part. Les mythologies peuvent être lues à différents niveaux.
Nous allons maintenant revenir à la tradition hindoue du déluge, aux textes qui nous viennent du Mahabharata, des Puranas, qui parlent tous d'un déluge, un déluge de Vaisvasvata. Est-ce que tu peux nous évoquer ça? À quel moment ça se passe? À quoi ça correspond?
Alors il y a aussi le Shatapatha Brahmana, c'est un texte aussi très important, mais il y a voilà trois grands textes. Dans divers Puranas, tu l'as dit, le Mahabharata et ce Brahmana-là. Alors, au niveau des avatars de Vishnu, c'est le premier avatar de Vishnu, c'est-à-dire, je parle ici du poisson, le poisson qui va sauver Manu. C'est le poisson qui va prévenir Manu. En fait, Manu l'a déjà sauvé, et pour le remercier, le poisson, donc on voit bien qu'on est dans le cycle des poissons, quelque part, on est dans la symbolique du thème astrologique des poissons, qui sont reliés à l'eau et au déluge. On est dans ce cycle. Alors on peut le voir, on peut transposer cette histoire-là, comme on l'a dit dans le dernier récit de Platon, ou alors le transposer dans il y a plusieurs millions d'années, ou au moins il y a 100 000 ans, si on voulait symboliser le passage entre la race atlante et aryenne. Donc l'époque, c'est pas très important. Ce qui est important plutôt, c'est cette idée. Ce poisson, c'est Vishnu qui s'incarne, qui va sauver Manu. Donc Vishnu, il représente
c'est l'amour.
Le Logos, voilà, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Verbe, le Logos, on dirait en termes chrétiens. C'est cette énergie qui vient cycliquement, c'est la conscience. La conscience ou l'amour-sagesse de Dieu qui vient cycliquement à travers des représentants. Donc là, il est venu à travers un poisson pour prévenir Manu. Et on voit bien qu'il est le premier avatar parce que c'est la fin d'un cycle et ça va être le début d'une longue série de manifestations des avatars, des incarnations, on pourrait dire, de Vishnu, jusqu'à ceux qui sont connus. Le septième avatar sera Rama, le huitième Krishna, le neuvième Bouddha et le dixième Kalki, celui qui est attendu. Et c'est intéressant de voir que ce Kalki, le 10, rejoue l'histoire du 1, il est attendu à la fin de l'âge de fer. Enfin, l'âge de fer est un terme chrétien, à la fin du Kali Yuga. L'âge noir, l'âge destruction, l'âge des péchés. Donc on voit, on retrouve quelque part cette idée qu'il y a une ère de péché, une race et une civilisation qui est en décadence et qui va sombrer. Donc quelque part, on peut dire que l'époque actuelle a représenté cette forme de déchéance. Et c'est intéressant de voir qu'on sort du cycle des poissons, justement. Et que ce cycle des poissons, avec celui du bélier, a correspondu à deux grandes ères zodiacales et à ce fameux Kali Yuga qui a duré presque près de 5000 ans.
Qu'est-ce que c'est le Kali Yuga?
C'est cet âge sombre qui vient de se terminer, disent certains maîtres comme Premananda, Sai Baba, qui sont maintenant décédés, mais qui ont annoncé qu'en 1994 il avait pris fin, le maître de Benjamin Krem et peut-être d'autres astrologues indiens, je ne sais pas, et qui ont annoncé que ce petit cycle de Kali Yuga, qui avait duré près de 5000 ans, avait pris fin et que donc, quelque part on peut dire que Kalki peut revenir. Ou ça peut être la deuxième venue du Christ, ça peut être le Bouddha Maitreya, peu importe tous ceux qu'on attend à la fin d'un... Pas à la fin des temps, c'est en fait à la fin d'un âge. Dans l'évangile de Matthieu, c'est maintenant traduit correctement, « Je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge ». C'est-à-dire, à l'époque, c'était l'ère des poissons qui avait commencé à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans.
Oui, tout le monde confond beaucoup la fin d'un cycle avec une fin terminée, quoi.
Voilà, comme parce 2012 que la... avec le calendrier maya, c'est un autre histoires. Exemple.
Parce que la civilisation occidentale n'a pas intégré ou a oublié cette notion de cycle.
Tout à fait.
Hein, on vit dans un temps continu qui progresse, où il faut se dépêcher vite parce que ça va se terminer.
Et symboliquement, il y a un déluge. Alors, pas un déluge physique, d'eau, mais il y a une forme d'occultation, de fin de cycle à la fin de chaque ère zodiacale. Et on peut le voir que c'était une ère de destruction si on regarde le XXe siècle. Des historiens ont calculé qu'il y a eu plus de 200 millions de morts, 230 millions de morts. Il y a des chiffres un peu différents, mais on sait que ça avoisine ces eaux-là, c'est le cas de le dire. Liées à la barbarie, liées aux guerres. Non seulement les deux conflits mondiaux, mais il y en a eu énormément d'autres, et très très sanglants, et qui ont fait beaucoup beaucoup de morts. Donc on a une preuve quelque part d'une forme de destruction généralisée qui annonce qu'on est en fait en train d'essayer de reconstruire une nouvelle culture, une nouvelle civilisation. Ce qui s'est passé d'ailleurs après les deux grandes guerres mondiales. Alors il y a des soubresauts, c'est un accouchement, il y a des périodes difficiles, mais on peut dire qu'on est à l'orée, que l'ère du Verseau, c'est l'orée d'un, on est à l'orée d'un nouveau cycle, d'un nouvel âge d'or. Donc on a vécu quelque part ce déluge symboliquement, à travers donc tous ces morts.
Dans la tradition indienne, on dit que ce déluge, alors donc c'est un passage d'une race à une autre. C'est la fin d'un cycle vers autre chose. On est dans une sorte de progression en spirale. On dit aussi ça, c'est que on vit quelque chose, on atteint un progrès, on meurt, et on a une espèce de semence qui va permettre de repartir sur un nouveau cycle qui va progresser à partir du meilleur du cycle précédent.
C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un manu qui est à la base du cycle. Et qui contient en lui tous les produits qui vont, tous les germes qui vont se développer. Alors ça peut être, on l'a dit, ça peut être un grand cycle planétaire, un jour de Brahma, ça peut être une race mère, mais ça se passe aussi entre les sous-races, une même race mère, et ça se passe même à l'intérieur dans les cycles zodiacaux, tous les 2500 ans, grosso modo. Et donc il y a ces cycles-là constamment, et à la fin, quand cette énergie s'est pleinement développée, elle tend à se cristalliser. Et il y a une énergie cyclique qui vient, qui va détruire. C'est ça, proprement dit, l'antéchrist. Hein. C'est l'énergie qui vient avant le Christ, avant la construction. Parce que l'énergie christique, c'est l'énergie qui fait évoluer, qui attire, qui construit. Mais avant, il y a cette énergie antéchristique, avant le Christ, qui vient détruire toutes les formes cristallisées. Alors ça peut avoir lieu sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et parfois ça peut être précipité, en quelque sorte, sur le plan physique. On peut dire que Hitler... Mussolini, le général Hanami au Japon, c'est ce genre de personnes et d'autres ont précipité un conflit qui aurait pu avoir eu lieu seulement sur des plans psychologiques, internationaux, au niveau politique, mais ils ont précipité ces tensions au sein de l'humanité. Mais il y a donc toujours des moments charnières. On dit que Néron a fait la même chose. Il y a 2000 ans, en fait, hein, il a persécuté les chrétiens lui associaient le chiffre 666.
Oui, c'était une sorte de début du mal.
C'était la fin de l'Empire romain. Quelque part, lui, Caligula et d'autres ont quelque part précipité. Il y a des agents du bien, des agents du mal, entre guillemets. Certains aide le passage à se faire convenablement, d'autres précipitent des conflits, des guerres, mais en tout cas, il y a une transformation qui se fait. On arrive à un moment où le cycle arrive à sa fin, les choses se cristallisent, et il y a une énergie qui vient détruire ça, et ça permet de reconstruire les choses. C'est un peu la même chose lorsque notre corps est sur le point de mourir. D'un point de vue ésotérique, l'âme déclenche la mort. Elle lance cette énergie qui correspondrait à l'antéchrist quand on est à la fin d'une période. L'âme envoie l'énergie qui va détruire le corps qui vieillit trop, qui se cristallise, avec l'idée que l'âme va revenir dans un nouveau corps, dans un corps d'enfant, donc tout neuf, mais qui est aussi conditionné par son karma ancien. Donc il y a une idée de succession.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ne pas avoir peur de ce côté destruction qui est comme on détruit une coquille vide, quoi. Ou c'est comme une chrysalide, ou c'est comme un serpent qui mue. On enlève l'ancienne protection qui limite pour construire autre chose.
Voilà, tu l'as dit, dans la nature, c'est le cas pour les étoiles, elles s'effondrent sur elles-mêmes, elles créent des supernovas, des naines blanches, etc. On a ce phénomène, tu l'as dit, dans la nature, au niveau des animaux, ben on l'a au niveau géologique, au niveau des peuples. Pourquoi à un moment les Mayas, justement, ont été au summum de leur civilisation, puis la décadence? Alors il y a toujours des facteurs extérieurs, mais il y a des cycles pour tous les peuples. Ça, parfois ces cycles peuvent s'étaler sur des très grandes périodes, parfois on arrive à la fin de la période, et on oublie que certaines civilisations ont vécu des périodes d'âge d'or, des périodes classiques très, très importantes qui ont influencé parfois le reste du monde. Donc tout est cyclique, et à un moment, le véhicule est trop limitant, il est trop cristallisé, il empêche que la vie s'exprime pleinement, la vie et la conscience, donc la forme à un moment limite, donc elle meurt. On n'est pas habitué dans nos sociétés à accepter avec sagesse cette idée de mort, mais elle fait partie de la vie, du cycle des renaissances. Et quelque part, le déluge, symboliquement, si on enlève l'aspect aqueux, hein, ce déluge est le phénomène qui fait qu'il y a la fin de quelque chose, mais cette fin contient un germe, une partie est sauvée, une arche, peu importe le symbole, mais une semence va permettre la création de quelque chose de nouveau.
Et cette création est toujours liée au nombre 7. Parce que dans la tradition hindoue, on a 7 rishis. Apparemment, Noé regroupait les animaux par 7. Enfin,
oui,
7 groupes d'animaux. On a toujours ce nombre 7 qui vient organiser les choses.
Oui, c'est une allégorie aux 7, liée aux 7 rayons. Il y a 7 pouvoirs créateurs qui sont là, qui survivent. On a dit qu'il y avait aussi sept races. Il y a en fait 7 sous-races dans une race mère, mais on dit même qu'il y aura en tout 7 races mères. On est en fait dans la 5e. Il y aura encore 2 autres. Donc on a dans cette ronde-là, il y a encore, on est dans la 4e ronde, dit-on. Il y aura encore 3. Et après cette planète, il y a d'autres évolutions. Donc ça continue toujours sur ce modèle cyclique septénaire.
Oui, de façon quasi infinie.
Quelque part.
C'est des poupées russes qui s'emboîtent à l'infini, comme les atomes s'emboîtent à l'infini pour former des planètes, des corps humains, des systèmes solaires, des galaxies, des amas de galaxies, etc. Quoi. L'univers n'est qu'une série d'emboîtements, d'empilements.
Et tout à fait. Et le liant dans tout cela, c'est ce concept d'Akasha. J'y reviens parce qu'il est intéressant. Il correspond à ce qu'on a appelé parfois l'eau céleste. L'akasha, ça vient d'une racine kash en sanskrit qui veut dire briller. Mais c'est une lumière qu'on ne voit pas, c'est la lumière de l'espace, c'est la lumière du monde quelque part. Et sur cette lumière s'impriment tous les événements mondiaux, les événements planétaires, mais stellaires, cosmiques, tout s'imprime dans cette substance.
C'est une sorte de mémoire
C'est une pellicule, c'est ça. Tout s'imprime dessus et le karma latent est dedans. C'est ça les germes, cette idée de germes, l'idée qu'on sauve un homme et une femme qui va représenter quelque chose de nouveau. L'arche, j'ai dit, c'est arché, c'est ce qui est ancien. La lune, c'est ça représente la semence. Ça représente toujours l'énergie sexuelle dans les traditions. Surtout en Inde, par exemple. Soma, il est relié à l'énergie sexuelle. Donc toute cette symbolique explique qu'il y a des germes, des choses qui sont installées. C'est un karma passé. Et quand la substance va reproduire des formes, elle va le faire en fonction d'un modèle ancien. Et c'est ça le karma. Il y a un modèle ancien. Il y a la race aryenne, elle s'est créée mais en fonction de l'héritage de la race
attente. De ce qui était acquis de voilà.
Il n'y a pas de rupture. Et on a un phénomène équivalent pour un être humain. lorsqu'il se réincarne. Dans l'ésotérisme, on dit qu'il y a trois atomes permanents, atomes entre guillemets, hein. Il y a un atome éthérique, astral et mental inférieur, et c'est une sorte de cellule akashique qui va enregistrer justement toutes les expériences de la vie donnée, et qui va enregistrer les acquis, un certain taux vibratoire. L'âme avec son fil d'argent, son sutratma, comme on dit en Inde, le long de ce fil, l'âme donc maintient ces trois atomes. Quand elle sort d'incarnation, les corps qui s'étaient construits autour de ces atomes disparaissent. Donc il y a une mort. On est dans un déluge, symboliquement parlant. Et puis quand l'âme revient, donc l'âme réabsorbe ses atomes, et quand elle revient en incarnation, le long de ce fil, quelque part ces trois atomes se replacent et attirent de nouveau des particules éthériques, émotionnelles, mentales. La seule chose que l'âme ne crée pas elle-même, c'est le corps qui est donné par les parents. Donc la génétique du père et de la mère. Mais l'âme choisit le milieu dans lequel elle va faire cette nouvelle incarnation, et ce corps, ce milieu, ces gènes doivent correspondre à ce que l'âme cherche à expérimenter. Mais il y a cette idée donc du karma, d'un résidu, d'un dépôt qui permet de reprendre là où on s'était arrêté.
Une pause musicale ?
Ok, volontiers.
Nous avons parlé des déluges, de l'eau. Est-ce que tout ça nous amène à parler du cycle des poissons ? Parce que les poissons, c'est l'eau. Les versos aussi, c'est l'eau, puisque c'est les eaux du verso. Alors, comment est-ce que l'eau intervient dans le cycle des poissons ?
Alors, si on peut faire un petit résumé, on a parlé du déluge Atlante, le passage d'une race mère à une autre, la race Atlante à la race Arienne. On a dit que ce petit cycle s'était reproduit à l'intérieur même de l'époque arienne, pardon, dans la fin de la dernière île dont parle Platon, il y a environ 15 500 ans, et qu'il y avait ce passage, on disait Vierge, Lion, vers ces époques-là, et la création de la Méditerranée. On a dit qu'il y avait toute une symbolique dans la mythologie grecque, avec Atlas, c'est cette fille pour la race arienne, pour la race Atlante, pardon, pour la race arienne, justement, c'est Prométhée, avec Deucalion, qui est un Noé. Noé, c'est le Manu Vaivasvata. On a dit tous les différents noms dans les différentes traditions. On a vu un peu qu'il y avait des thèmes récurrents. Ils sont sauvés, il y a une barque. Donc on a expliqué un petit peu cette notion de genèse, de nouvelle création d'humanité à partir d'un modèle ancien. Hein, on a dit que l'espace, la Kasha jouait ce rôle qui mémorisait ce qui était passé, donc l'ère passée, la race mère passée, la sous-race passée, peu importe. Ça peut être même, on a vu, à un niveau planétaire, hein, ou même à des niveaux cosmiques, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a une mémoire, il y a un karma, il y a un niveau atteint, et à partir de ces germes sont recréés un nouveau cycle, des nouvelles formes. Alors, planétaire, cosmique ou même humaine au niveau racial. Et on a vu que même ça fonctionnait comme ça, d'un point de vue ésotérique, dans nos corps à nous. On a ces fameux atomes permanents qui sont le chaînon manquant quelque part d'une vie à une autre. Ils sont le long de ce fil qui est tenu par l'âme, et l'idée qu'à chaque nouvelle incarnation, l'âme va recréer, attirer des nouvelles particules en fonction de ce karma latent, de ces atomes-là. Donc la symbolique de tout cela, quelque part de cette fin de cycle, c'est les cycles des poissons. C'est le signe astrologique des poissons. Les poissons, c'est le 12e signe. Le zodiaque comporte 12 signes. Et les poissons est justement donc le 12e et le dernier signe, ce qui montre qu'il termine le cycle zodiacal qui est un cycle symbolique. Quand on arrive dans le cycle des poissons, quelque part on arrive dans un déluge symboliquement parlant. Alors c'est aussi symbolique parce que l'eau est l'élément des poissons. Il y a à chaque fois dans le zodiaque quatre éléments qui se déclinent en trois phases quelque part. Il y a une eau cardinale, c'est par exemple le signe du cancer, une eau fixe, c'est le scorpion, et une eau mutable, c'est le signe des poissons. Pardon. Et l'eau mutable, c'est une eau qui se transforme. Donc on a en fait cette idée, la mutabilité, la mutation, c'est la transformation. On arrive non seulement à la fin d'un cycle, et on est dans un signe d'eau, et l'eau, on sait que c'est un signe, c'est un élément qui permet la vie, qui permet la création. Donc on a cette idée de déluge, mais aussi l'idée que l'eau va contenir les germes de la vie. Comme au début de la vie sur cette planète, quelque part, on a ces germes de vie qui sont contenus dans l'eau. Et l'eau peut être l'eau physique, comme l'eau akashique, l'eau spatiale, l'eau de l'espace. Donc cette eau mutable, elle symbolise cette mutation et cette fin de cycle. Puis après revient le signe du bélier, et de nouveau on repart sur un tour supérieur de la spirale dans un nouveau grand cycle zodiacal. Alors ce que l'on sait d'un point de vue ésotérique, c'est qu'on a commencé un grand cycle de 25 000 ans. Il y a un très grand zodiaque qui comporte des cycles de 250 000 ans, avec à l'intérieur des cycles de 25 000 ans. Et on a commencé un grand cycle de 25 000 ans dans le cycle des poissons. C'était à l'époque justement de l'ère du bélier. Donc on a parlé tout à l'heure de ce Kali Yuga qui contient deux ères zodiacales. Et en fait, ce cycle, depuis environ 5000 ans, il a commencé dans le signe du bélier, puis après le signe des poissons. Donc le signe des poissons était un sous-cycle dans ce grand cycle des poissons, dans lequel on va rester près de 20 000 ans encore. Et là, on est à la fin de ce petit âge sombre. Alors pourquoi un âge sombre au début d'un grand cycle de 25 000 ans? C'est tout simplement qu'avant, il y a eu la fin d'un autre grand cycle de 25 000 ans, et qu'il y a des aires de chevauchement. Comme il y a des aires de chevauchement, on a vu, entre les aires zodiacales, comme il y en a entre les races mères ou les sous-races, et bien c'est pareil. On a terminé un ancien cycle de 25 000 ans et un nouveau grand cycle de 25 000 ans. Et il y a eu cette fameuse zone de tension dans l'ère du bélier, l'ère des poissons. Et c'est surtout à la fin du cycle des poissons, le cycle de 2500 ans qui vient de se terminer, qu'on a eu ce 20e siècle aussi meurtrier dont on parlait. C'est vraiment la fin de ce Kali Yuga, de cet âge sombre. Peu importe, ma foi, si les hindous le font arrêter en 1994, si au contraire les mayas l'amènent jusqu'à 2012, peu importe, on est en gros dans la fin de ce grand cycle-là. Donc c'est intéressant de voir que, à plusieurs niveaux, on a vécu et la fin d'un cycle de 25 000 ans, et donc le début d'un nouveau cycle de 25 000 ans, et aussi la fin d'un cycle de 2500 ans, et on est à la fin de ce cycle-là, et donc au début de l'ère du Verseau, qui va durer environ 2500 ans, toujours à l'intérieur de ce grand cycle.
Ça pourrait expliquer pourquoi on est dans une période de transformation, transmutation si profonde, une période où on voit que les repères qu'on avait il y a 30 ans ne sont plus valides aujourd'hui, les repères qu'on avait dans ma génération ne sont plus valides pour les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, et que ça correspond à vraiment une transformation profonde du monde. On voit bien qu'il y a une sorte d'universalité qui est en train de s'instaurer, l'internationalisme, qu'il y a une communication sur toute la planète, et tout ça c'est nouveau, et pour toi c'est vraiment le passage, l'influence de l'ère du Verseau.
Oui, alors ce qui est curieux, c'est qu'à cause de la précession des équinoxes, les petits cycles de 2500 ans vont dans le sens inverse, hein, c'est-à-dire qu'on était dans l'ère du bélier, puis l'ère des poissons, on va dans l'ère du Verseau, sur les cycles de 2500 ans. Donc on s'approche des valeurs universelles du Verseau, qui là aussi, il y a eu un chevauchement d'environ 300 ans, depuis le XVIIe siècle, les influences du Verseau commencent à se faire sentir. Et qu'est-ce qu'on a? On a les révolutions américaines, françaises, chinoises, soviétique, la révolution industrielle, toutes les formes de mai 68, on peut dire toutes ces formes de révolution, même si elles ont un caractère différent, derrière, elles amorcent, elles sont le signe que quelque chose de nouveau essaye de se mettre en place. Donc on casse l'ordre ancien et on essaye d'instaurer une nouvelle culture, une nouvelle civilisation.
Finalement, c'est une corroboration, c'est de l'espoir que tout ça, parce que ça amène le sens d'une évolution qui est une sorte d'évolution inéluctable et qui amène à quelque chose de bien.
Oui, c'est ce que la science des cycles peut nous apporter si on accepte qu'il y a des moments difficiles, comme dans notre vie, on a des moments un peu de tension, et quand on passe la crise, on peut à ce moment-là repartir sur des bases neuves. C'est pareil au niveau de l'histoire du monde, au niveau de l'histoire des peuples. Et donc on a, je dirais, le déluge derrière nous quelque part. Donc il n'y a pas à attendre une fin du monde à venir. L'ère des poissons s'est terminée, il y a eu ce 20e siècle dont on a parlé, il y a eu ces 300 ans un petit peu de chevauchement là depuis la fin du 17e siècle. Donc on a, de plus en plus, on sort des poissons, et de plus en plus on entre dans cet âge d'or. Donc symboliquement, si on reprend les avatars de Vishnu, Kalki peut venir. Le 10e avatar, Kalki, ça veut dire l'accomplissement, celui qui arrive à la fin du cycle. Donc on est vraiment à l'orée d'un âge d'or et pas du tout
à une fin de quelque chose de négatif,
à une fin de monde,
pas de
une destruction,
etc.
Pas du tout.
Oui.
En tout cas, c'est pas ce que je pense du tout.
Donc voilà, au cours de cette émission, nous avons parlé du déluge. Nous espérons vous avoir amené une idée de ce qu'il était d'un point de vue symbolique, de sa réalité en fait, puisqu'on a essayé de vous dire que l'Atlantide a vraiment disparu. Nous espérons vous avoir amené un éclairage différent. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.